enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Si on veut réussir les plans de Dieu dans nos vies,
si on veut
réussir notre destinée divine,
obligatoirement
la voix de Dieu est d'une grande importance.
Ne
pas écouter la voix de Dieu ou mépriser la voix de Dieu, penser que Dieu a parlé alors qu'il n'a pas parlé, ça nous détournera du plan de Dieu. Dieu veut qu'on marche dans son plan. Dieu a un avenir pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que quand on reçoit une parole, on doit savoir la donner. Et si quelqu'un nous la donne, on doit aussi savoir l'accepter quand elle vient de Dieu et discerner. Alors je vous rappelle que la prophétie fait partie des 9 dons spirituels qui nous sont décrits dans 1 Corinthiens
12.
Et que Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste, c'est-à-dire se rend visible par des œuvres. On ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais on peut voir des manifestations du Saint-Esprit, des œuvres du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fait reflète Dieu. Et il y a différents dons, et je vous ai montré qu'il y a 3 catégories de dons. Première catégorie, c'est les dons de révélation. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Don de discernement des esprits. Parole de connaissance, c'est une révélation de la connaissance de Dieu, d'un morceau de la connaissance de Dieu sur le passé et le présent. Parole de sagesse, c'est quoi? Eh bien, c'est une révélation sur l'avenir. Dieu va révéler un morceau de son plan à quelqu'un ou sur la vie de quelqu'un. Le discernement des esprits, c'est de la capacité surnaturelle de voir ou d'entendre dans le monde spirituel. Ensuite, il y a les 3 dons de puissance. En tout, je vous rappelle, il y a 9 dons. Il y a le don de foi spéciale où quelqu'un reçoit une foi surnaturelle qui ne peut pas être créée par la méditation de la parole de Dieu. C'est bien au-delà, dans une situation particulière, et tout ce que cette personne va prononcer, ça va se produire tel quel. Il y a le don des miracles. Un miracle étant bien sûr une intervention surnaturelle dans le cours de la nature. Ensuite, il y a les dons des guérisons. C'est cette capacité surnaturelle à pouvoir guérir des malades. Ce n'est pas un don de médecine
où
quelqu'un est docteur et il va faire un diagnostic et prescrire des médicaments. C'est pas ça. Ensuite, les 3 derniers dons, ce sont les dons L'inspiration, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui met dans votre esprit quelque chose de spécial, et particulièrement une prophétie ou un parler en langue, un message en langue, c'est-à-dire votre parler en langue commence à changer et ça a envie de sortir comme ça, et c'est pas votre parler en langue habituel, et vous donnez ce message en langue. Et ce don, c'est le seul don d'ailleurs qui marche avec un autre don qui s'appelle le don d'interprétation des langues. Bien évidemment, pour pratiquer les dons spirituels, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est la porte qui ouvre aux dons spirituels. Les dons spirituels fonctionnent avec une onction. On ne peut pas se permettre de recevoir un don spirituel par la foi.
Il est évident que pour recevoir des dons spirituels,
eh
bien, il faut absolument pratiquer la présence de Dieu. Nous insistons beaucoup dans cette église sur la présence de Dieu. Parce que c'est indispensable d'apprendre à entrer dans la présence de Dieu. Et quand vous êtes dans la présence de Dieu, il y a des moments où Dieu d'un seul coup va descendre d'une façon particulière sur vous, vous allez ressentir une onction particulière sur vous. Et c'est là où vous recevez un don du Saint-Esprit. Par exemple, vous êtes là, vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui a un problème de maladie, et vous pouvez prier dans la foi. Mais des fois, vous allez imposer votre main, et
d'un
seul coup, la présence de Dieu va venir sur vous, une immense chaleur va vous traverser. Parce que c'est souvent le cas dans un don de guérison.
Et
vous allez sentir comme une puissance qui vous traverse de vers vous qui va vers la personne, et à ce moment là la personne est d'un seul coup guérie. Elle dit, quand tu as prié pour moi,
wow,
j'ai senti comme quelque chose de spécial
dans
mon corps, je sais que je suis guéri. Et effectivement les symptômes partent très rapidement. Vous êtes dans un moment de louange, d'adoration, et d'un seul coup vous recevez quelque chose qui vient s'imposer à votre esprit. Vous savez qu'il y a par exemple quelqu'un qui est dans telle ou telle situation, et que le Seigneur veut toucher cette personne. C'est une parole de connaissance. Ou vous êtes là, vous recevez une parole spéciale pour quelqu'un, l'onction de Dieu est puissamment sur vous, et d'un seul coup vous allez parler sur son avenir. Donc je vais vous enseigner à propos de toutes ces choses là parce que c'est important que vous ayez du discernement. Je vous rappelle que le discernement, c'est-à-dire discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas quelque chose que l'on reçoit par la foi non plus. Le discernement spirituel, le mot discerner en grec, c'est souvent le verbe diakrino.
Diakrino,
en fait, ça veut dire juger. Être capable de dire c'est vrai ou c'est faux. Ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. C'est exactement ce que la Bible utilise comme mot. Comme un juge qui est capable de dire non, ça c'est la vérité, ça c'est l'erreur. Voilà, ça je condamne, ça j'accepte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent avoir ou qui ne savent pas comment faire. Quand on reçoit une prophétie, il
ne
faut pas faire n'importe quoi, il faut savoir qu'on a reçu une prophétie. Et il faut apprendre à maturer dans ce don. Parce que Dieu nous donne les dons spirituels, frères et sœurs, pour que nous puissions amener sa puissance sur la terre. Et moi, je ne suis pas d'accord de freiner les dons spirituels. Mais je ne suis pas d'accord non plus pour laisser faire n'importe quoi. Parce que vous savez, il y a des gens qui font tout et n'importe quoi en faisant semblant d'avoir des dons spirituels. Et ça c'est dangereux. Mais d'un autre côté, on ne peut pas étouffer l'esprit en disant non, finalement, parce qu'il y a eu un mauvais exemple ici, alors non, je ne crois pas dans ces choses. Ça, ça ne serait pas normal. Donc le don de prophétie, c'est quoi? Une source, ça veut dire littéralement une source qui coule. Dans le Nouveau Testament, ça veut ni plus ni moins dire un porte-parole. Qu'est-ce que c'est qu'un porte-parole? C'est quelqu'un qui rapporte des paroles qu'on lui a dit de rapporter. Et quand vous avez un porte-parole, il
ne
va pas aller raconter n'importe quoi. On lui a transmis un message. Par exemple, le gouvernement dit, voilà, le porte-parole du gouvernement va s'exprimer à la télévision sur ce que le gouvernement a décidé. Et ce porte-parole, il doit être fidèle, c'est-à-dire il a un texte précis, à la lettre près. Et il ne doit pas sortir de ce qui est écrit. Il ne peut pas se permettre de dire des choses au nom du gouvernement. Sinon, directement après son intervention, croyez-moi qu'il sera convoqué. Et on lui demandera des comptes. Et on lui dira, mais pourquoi est-ce que tu as dit ça alors que tu avais exactement le texte et c'est exactement ça qu'on a décidé. Parce que à ce moment-là, le gouvernement ne sera pas d'accord. Il sera obligé de corriger la personne. Qu'est-ce qu'on attend d'un porte-parole ? C'est qu'il soit fidèle, de retransmettre simplement, fidèlement, sans en rajouter, sans en enlever, de ce qu'on lui dit
transmettre.
Et la prophétie, c'est vraiment ça. Le Seigneur va nous donner quelque chose,
et
à ce moment-là, on le transmet fidèlement, sans rien en rajouter, sans rien en enlever. Et on ne peut pas se permettre de jouer les porte-paroles de Dieu si Dieu n'a rien dit. Est-ce qu'un porte-parole du gouvernement va venir à la télévision en disant, voilà, le gouvernement a décidé ceci, le gouvernement dit que, etc., etc., alors que le gouvernement ne se serait pas réuni, les ministres ne se seraient pas réunis. Il serait viré immédiatement. Pourquoi ? Parce que ce qu'on demande à un porte-parole, c'est d'être fidèle et intègre.
Donc,
exactement de dire ce qu'il a eu. Ce qu'il a reçu. Alors, dans la prophétie, je vous rappelle qu'il y a la simple prophétie. Et on va revoir le texte d'1 Corinthiens 14. Dans
1
Corinthiens 14, Paul va nous décrire la simple prophétie. Et il nous décrit cela donc au verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça, c'est la simple prophétie. Rappelez-vous que la prophétie est un véhicule. Un véhicule qui peut transporter différentes choses. Dans la simple prophétie, il n'y a pas d'élément de révélation. Je rappelle que la révélation, ni plus ni moins, dans le Nouveau Testament, ça veut dire enlever le voile. Il y a une connaissance de Dieu qui est là, parce que Dieu connaît toutes choses. Et d'un seul coup, Dieu enlève le voile pour que quelqu'un puisse voir cette connaissance. Il lui transmet. Et cette personne retransmet sur la terre ce qu'elle a reçu dans l'esprit. La simple prophétie fait quoi ? Bah, Paul nous le dit ici. Édifie. Et je vous rappelle que très souvent dans la simple prophétie, il y a des versets bibliques qui sont remis et actualisés et personnalisés. Souvent dans la simple prophétie, Dieu met l'accent sur une parole spécifique qu'il a écrite dans sa parole.
Usanga kenshi imana ishimikira cyane ku ijambo ryanditswe mu ijambo muri ako kanyanya ne kandi ishimikira ko.
J'ai lu ce verset des centaines de fois.
Et d'un
seul coup, c'est comme si j'avais une lumière sur ce verset. Parce que t'entends une prophétie. Ne crains rien, je t'ai racheté. Arrête de promener tes regards inquiets. Je suis ton Seigneur. Je t'aime. Etc., etc. Dieu nous répète sa parole à ce moment-là. Mais d'une façon particulière, appropriée, ça s'appelle l'inspiration. Et ça nous parle à notre cœur à ce moment-là. Ensuite, la Bible nous dit, les édifie, donc les exhorte. L'exhortation, c'est aider quelqu'un à rester sur le droit chemin. Et on a besoin d'être exhorté quand ? Bah, quand on est un peu fatigué sur notre marche, dans notre marche chrétienne,
et
qu'on a besoin d'un bon petit coup de pouce de la part du Seigneur,
ou quand on
commence à dévier un peu,
qu'on
se retrouve attiré par des choses qui commencent à nous éloigner du Seigneur.
Et d'un
seul coup, Dieu nous rappelle à l'ordre.
Et dit,
attention, t'es en train de t'écarter là.
Et
souvent, une telle prophétie,
on
va dire, le Seigneur voit que tu commences à t'écarter. Le Seigneur veut t'encourager ce matin. Continue à croire. Reprends ton chemin. La victoire est juste devant toi, etc. etc.
Simple
encouragement comme ça, ça c'est la simple prophétie. Les consoles. La consolation, nous en avons besoin quand ? Quand nous sommes affligés, attristés, quand nous avons vécu un moment difficile dans notre vie, d'un seul coup quelque chose qui nous arrive qu'on n'attend pas du tout, et nous passons par un moment vraiment dur, et là le Saint-Esprit, au travers du don de prophétie, nous entoure de ses bras, et c'est là où il nous fait du bien, il nous donne une parole de consolation et ça réconforte notre cœur. Alors la simple prophétie, c'est pour qui? Eh bien la simple prophétie, c'est pour les bébés spirituels. Principalement, les bébés spirituels reçoivent au début donc, de leur vie chrétienne un certain nombre de prophéties pour nous encourager. Mais il y a un temps où nous devons grandir. Et ce temps où nous devons grandir, eh bien, c'est le temps où nous devons nous nourrir de la parole. Comme il est écrit dans Hébreux 5, celui qui est encore un bébé n'a pas l'expérience de la parole. Il ne sait pas discerner le bien du mal, c'est-à-dire dans le sens de la bonne chose, de ce qui n'est pas bon devant le Seigneur. Et souvent le bébé spirituel, comme il n'arrive pas encore à se nourrir lui-même de la parole, il a besoin que le Seigneur lui parle. Et c'est tout à fait normal. Mais sachez que c'est une période qui ne durera pas. Quand on vient de se convertir, un an, deux ans, trois ans, c'est vrai, Dieu utilise un certain nombre de personnes, et au travers du don de prophétie, tu es consolé, tu es édifié, tu es encouragé dans tous les domaines, tu es vraiment exhorté. Mais Dieu ne te parlera pas tout le temps par prophétie. Ça, c'est le piège, attention. On va en parler. Alors maintenant, parlons des prophéties qui ont des éléments de révélation. Dieu se révèle à son peuple et Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Et Dieu, parfois, au travers du don de prophétie, il va véhiculer un certain nombre de révélations. Nous avons beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament, principalement les prophéties de l'Ancien Testament étaient données par des prophètes. Et la plupart de ces prophéties parlaient de l'avenir. Donc il y avait un élément de révélation sur l'avenir. Mais aussi souvent Dieu révélait des situations spirituelles et la condition du pays sur des situations présentes et parfois passées aussi. Mais il y avait souvent des éléments de révélation dans ces prophéties. Si vous lisez les prophéties de l'Ancien Testament, vous verrez il y a des éléments de révélation constamment. Beaucoup de prédictions, c'est-à-dire Dieu annonçait à l'avance un certain nombre de choses. Beaucoup de révélations sur des situations passées et présentes. Ça, c'est la prophétie qui véhicule un élément de révélation. Vous voyez, c'est vraiment très différent. C'est une autre dimension du don de prophétie. La simple prophétie est très utile. Mais nous avons aussi besoin de la prophétie qui véhicule des éléments de révélation.
Mais
Pourquoi? Parce que nous en avons besoin dans notre vie. L'Église en a besoin. Quand il y a des révélations sur le futur,
un réveil qui vient, par exemple,
une période difficile qui arrive, des plans et des buts de Dieu qui sont révélés à son corps, alors c'est super, ça nous encourage énormément. Ça fait du bien. Mais ça ne se produira pas tous les jours. Ça ne se produira pas tous les jours. Regardons un exemple dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 21. Il va y avoir un prophète qui s'appelait Agabus. Vous savez, c'est intéressant parce que dans les Actes des Apôtres, il y a les ministères qui sont en opération dans le Nouveau Testament. On a le ministère apostolique. On a le ministère prophétique. On a le ministère pastoral. On a le ministère d'enseignant, etc. On voit les ministères en opération. Par exemple, si vous cherchez un apôtre,
eh
bien vous étudiez la vie de Paul à partir d'Acte 13, comment il fonctionnait dans son ministère apostolique.
Si vous voulez
un enseignant, vous trouvez aussi Paul. Comment il fonctionnait. Si vous voulez un évangéliste, vous cherchez Philippe. Si vous voulez un prophète,
bien
vous cherchez Agabus. Tout le monde dit Agabus. C'est lui que vous trouverez. Vous le trouvez dans Acte 11 et vous le trouvez aussi dans Acte 21 particulièrement. Alors il est dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, verset 10, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors ici Dieu utilise un homme, le prophète Agabus, qui va révéler des choses. Il avait d'ailleurs dans Acte 11 prophétisé à l'avance une famine sur la majorité de la terre habitée de l'époque. Et la Bible nous dit qu'effectivement cette famine s'est produite. Et le peuple de Dieu s'était préparé. Quand un prophète annonce des choses à l'avance, c'est pas pour que les gens disent « Waouh, quel prophète !» C'est pour que le peuple de Dieu se prépare. Et il faut que le prophète fasse attention. Parce que s'il raconte des choses qui ne se produisent pas, une fois ça va aller. La deuxième fois, on va se poser des questions. Et la dixième fois, on va le sortir à coup de pied aux fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ça sera un faux prophète. Mais il faut faire attention dans votre vie spirituelle. Je vous le dis à l'avance. Recevoir une parole de Dieu, c'est extraordinaire. Ça nous fait du bien. Ça nous encourage. Mais nous ne devons pas vivre et courir après les prophéties. Si vous faites ça, vous aurez des ennuis, je vous le dis à l'avance. Dis à ton voisin pour le convaincre, si tu fais ça, tu auras des ennuis. Et si tu te casses le nez, tu saigneras du nez tout seul. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que souvent les chrétiens sont prévenus. Et après, ils se cassent le nez. Parce qu'ils font le contraire de ce qu'ils ont entendu de la parole. Après, ils vont dire, oh, le diable, il a fait ça dans ma vie. Non, c'est pas le diable qui a fait ça. C'est toi qui n'as pas écouté la parole. Ne cherchez pas les paroles de droite et de gauche. Je suis sûr que si un jour un vrai prophète arrive ici en ville, les chrétiens vont courir pour aller chercher une parole. Et vous savez, c'est un piège pour les prophètes. Il y a peu de prophètes sur la terre aujourd'hui. De vrais prophètes. Il y a beaucoup de gens qui se donnent le titre de prophète. Mais il y a peu de vrais prophètes. Pourquoi ? Parce que c'est un ministère qui est extrêmement difficile à gérer. Parce que les gens sont charnels. Ils veulent une parole.
Si un
prophète est en ville, il faut ma parole. Courez jamais après les prophéties.
Tu cours
après les prophéties, tu te casseras le nez. C'est sûr. Tu vas tomber, tu vas t'écarter de ce que le Seigneur a pour toi. Si elles viennent vers toi, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer au travers de cet enseignement comment faire du tri. Parce que tu dois le savoir. Et tu vas apprendre à discerner les vrais des fausses.
Celles
qui viennent vraiment du Seigneur et qui sont d'une grande bénédiction. Parce que moi, ce qui m'agace beaucoup avec les dons spirituels, c'est
que
comme il y a beaucoup de contrefaçons, les gens se découragent au bout d'un moment. Et après, ils se refroidissent vis-à-vis de quelque chose de très précieux que le Seigneur a donné à son Église. Et ça fait mal, vous savez. Parce qu'en général, quand on est blessé par quelque chose, on a tendance à contre-réagir, vous voyez, et à fermer la porte à tout. Vous avez remarqué ça, quand vous avez fait une mauvaise expérience dans un domaine, vous êtes très très prudent et à la limite vous vous fermez. Et concernant la voix de Dieu, c'est ultra important qu'on apprenne à discerner la voix de Dieu, à ne pas se fermer à la voix de Dieu. Et justement, les mauvaises expériences nous amènera à jouer le jeu du diable,
c'est-à-dire
à nous fermer à l'esprit, parce qu'on vit une mauvaise expérience et ça fait mal de vivre une mauvaise expérience.
Quelqu'un
vous dit voilà que le Seigneur a pour toi, etc. et puis des fois on le croit parce que, et puis c'est faux,
mais
ça fait mal. Et la fois d'après, si quelqu'un vient à vous et vous dit le Seigneur dit que attends, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà donné là. Dieu vous parlera par prophétie qui a des éléments de révélation. Seulement à certains moments de votre vie. À des moments très importants dans votre vie. Il ne vous parlera pas tous les jours, toutes les 5 minutes. Ou parce qu'un prophète est en ville. Avec des prophéties qui ont des éléments de révélation. Ça se passera un certain nombre de fois dans votre vie chrétienne. Mais assez rarement. Assez rarement. Donc ne prenez pas tout pour argent comptant. La moindre personne qui vient à vous et qui vous raconte les choses les plus extraordinaires sur ce que vous serez un jour, parce qu'on va découvrir que d'abord Dieu nous parle principalement par sa parole. La parole écrite, c'est là où Dieu te parle le plus souvent. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens finalement. Ils disent ouais, la Bible c'est bien, mais bon, ça va quoi, le dimanche ça va quoi. Ils ne se nourrissent pas de la parole. Par contre, ils se nourrissent de n'importe quelle parole qui vienne et qui disent ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est être complètement déséquilibré dans sa vie spirituelle. Dieu te parlera d'abord par sa parole. Écrite ici. Et de temps en temps, il te donnera aussi une parole, soit d'encouragement, parce que si tu es encore bébé spirituel.
ça
va te faire du bien, ça va te revigorer.
Et
à certains croisements importants de ta vie
spirituelle,
Dieu, un certain nombre de fois, te parlera au travers de prophéties qui contiennent des éléments de révélation. Mais comme nous le verrons, la plupart du temps, ça va confirmer ce que vous aviez déjà dans votre cœur parce que vous avez le même Saint-Esprit que celui qui va donner la prophétie. Donc, attitude ouverte, oui. Mais ne soyons pas des imbéciles. Ayons du discernement. Ayons de la sagesse. Dieu nous parle principalement par sa parole. Et aussi, il te donnera un certain nombre de paroles personnelles. Gloire à Dieu. Et nous devons apprendre à les discerner. Ça, c'est clair. Mais je vous garantis, j'ai vu des gens chercher tout le temps des paroles. Vouloir se nourrir et courir derrière toutes sortes de personnes qui pouvaient leur donner des paroles. Faire des réunions prophétie à volonté. S'inspirant d'un Corinthiens 14. Je crois que c'est verset 31 qui nous dit vous pouvez tous prophétiser successivement. Et des gens qui ouvraient leur bouche et qui racontaient n'importe quoi. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit Dieu. Alors vas-y, parle mon frère et dis ce qui te passe par la tête. Et il y a eu tout et n'importe quoi. Et il y a des gens qui enseignent ce genre de trucs. Des gens qui viennent, qui vous diront, voilà, réunion, prophétie personnelle pour chacun. Et les chrétiens charnels font la queue devant ces réunions-là. Cassette. Avec prophétie personnelle. Maintenant, comme on est plus moderne, ça devient CD ou CD. Bientôt, ça sera DVD. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui sont charnels. Qui écouterait tout et n'importe quoi. L'important, c'est que ainsi parle l'Éternel. Eh bien, il y a plus d'une personne qui s'est fait détourner de l'appel qu'il y avait sur sa vie. Qui s'est marié à la mauvaise personne. Qui a été dans un pays où Dieu ne l'a jamais appelé à aller. Qui a abandonné son boulot alors qu'il s'est retrouvé au chômage pendant des années après. Qui s'est mis à faire des affaires dans des trucs que Dieu lui avait jamais demandé et qui a perdu tout son argent. Qui a commencé boutique, supermarché, kiosque qui s'appelle église. Parce qu'un jour, quelqu'un est venu et a dit toi, là, le Seigneur te dit tu seras un grand prophète des nations et demain tu vas commencer ton église. Si le Seigneur que la volonté du Seigneur se fasse. Évidemment, quand on est bébé spirituel, si vous avez quelqu'un qui arrive là et qui est très spirituel, qui d'un seul coup vous pointe du doigt, vous êtes paralysé. Ah oui, vous êtes paralysé, mais pas de la bonne paralysie. Et ce que vous allez ressentir dans votre dos, ça ne va pas être le Saint-Esprit. Ah, vous allez ressentir des frissons, ça c'est sûr. Vous savez, les choses émotionnelles, ça peut très bien marcher. Mais rappelez-vous que les émotions, c'est dans notre âme. Et notre âme n'est pas née de nouveau. Notre âme, elle fluctue. Et c'est à nous de la tenir dans la parole. Il y a des hauts et des bas dans notre âme. Et donc, il faut travailler régulièrement dans notre âme. Mais bon chrétien charnel se fait rouler à tous les coups. À tous les coups, il tombe dans le piège. Mais combien de vies on a vu ruiner à cause de ça? Ou des gens qui se doutaient à peu près de situation. Toi, tu vas amener telle personne au Seigneur. Et ils savaient très bien que cette personne était dans l'entourage, etc. Personnage important, bien sûr. Mais toutes sortes de trucs. Toi, tu vas devenir ceci. Toi, tu dois faire cela. Le Seigneur te dit que. D'accord, ok. Gloire à Dieu. Peut-être que Dieu a parlé, peut-être que Dieu n'a pas parlé. Et tu dois avoir du discernement. Tu es responsable
de ce que
tu reçois. Si quelqu'un te dit et te donne une parole, lui, il prend la responsabilité de parler de la part du Seigneur. Toi, tu vas recevoir cette parole et tu as la responsabilité de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec cette parole. Et pour ça, il y a des critères qui sont bibliques. Nous devons avoir du discernement, frères et sœurs. Vous savez, nous sommes dans un temps où l'Église grossit. L'Église de Dieu, en général, dans le monde. Beaucoup de choses se passent actuellement dans l'Église. La confrontation entre la puissance de Dieu, l'Église qui déploie la vraie puissance de Dieu, c'est pour notre génération, frères et sœurs, en masse dans le monde entier. Si vous étudiez l'histoire des réveils, très souvent vous verrez qu'il y a beaucoup eu de réveils localisés ou des endroits. Dieu a visité certains endroits très très localisés. Vous verrez qu'il y a eu des révélations sur la parole de Dieu, des dimensions nouvelles très localisées dans le monde pendant des siècles. Mais ce que Dieu veut, et de plus en plus on le voit, ça commence à se profiler, c'est que le corps soit en bonne santé dans le monde entier, marche dans la parole, puissamment dans la parole et puissamment dans l'onction. Ça, c'est ce que Dieu est en train de faire actuellement. Ça va demander encore des dizaines d'années. Mais sincèrement, il va y avoir de grandes choses qui vont se produire mondialement. De plus en plus, des chrétiens sont capables de s'associer avec les moyens médiatiques, de pouvoir prier dans le monde entier pour les mêmes sujets de prière, de rechercher la face de Dieu. Et on verra de plus en plus des mouvements comme cela. La puissance de Dieu pourra déferler parce que le corps aura soif de vouloir marcher avec Dieu. Mais à côté de cela, le diable viendra aussi infiltrer des choses. C'est pourquoi nous devons apprendre à marcher dans le discernement. La prophétie se discerne. Regardons 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5. Paul va nous enseigner. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Au verset 19, Paul va dire la chose suivante. N'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Paul ici prévenait les Thessaloniciens. Parce que les Thessaloniciens avaient un problème. Les Thessaloniciens, c'était le contraire des Corinthiens. Vous savez, les Corinthiens, Paul, dans 1 Corinthiens 12, les prévient. Leur dit, mais au niveau des dons spirituels, ça ne fonctionne pas du tout que lorsque vous étiez dans la, comme quand vous étiez dans la sorcellerie. Parce qu'apparemment, c'est clair, chez les Corinthiens, on était du style à croire tout et n'importe quoi. Paul va même jusqu'à leur dire une chose, mais alors qui est d'une évidence. Mais c'est écrit même dans la lettre aux Corinthiens. Paul leur dit, mais franchement, si quelqu'un parle soi-disant par l'esprit, il ne peut pas dire Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Pour nous, ça nous paraît d'une évidence. Mais Paul a dû même l'écrire dans la première aux Corinthiens. Ça montrait vraiment le niveau de ces gens-là. Ouvert à tout.
L'important, c'est qu'on dise quelque chose au nom du Seigneur. Non, on fait ce qu'on veut, on prophétise comme on veut, on exerce les dons comme on veut. Les Thessaloniciens, c'était le contraire. Eux, c'était des gens apparemment très prudents. Trop prudent. Et ça, c'est un problème qu'on a avec certaines personnes. Voilà les deux extrêmes qu'on peut trouver.
Ceux
qui croient tout et n'importe quoi, il suffit de dire ainsi parle le Seigneur. Ah, Dieu a parlé aujourd'hui. Dieu dit que. Et puis les autres qui finalement, eh bien, sont complètement fermés. Et les Thessaloniciens, ils avaient ce problème-là.
Et
c'est pour ça que Paul leur dit cela. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mépriser, c'est-à-dire écarter. Littéralement, ça veut dire ça. Ça s'appelle prophétie. Non, j'en veux pas. D'office, je ne veux pas entendre ce genre de choses. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc nous n'avons pas à réagir négativement même si nous avons fait de mauvaises expériences. Honnêtement, ici même, qui a déjà reçu une prophétie et c'était complètement faux. Complètement faux, vous avez vu que c'était complètement faux. Est-ce que ça vous a pas fait quelque chose ce jour-là? Bien sûr que ça nous a fait quelque chose. Ça nous a affecté quelque part. Qui a déjà reçu des prophéties où c'était vrai? On en a reçu. Et c'est bon. Gloire à Dieu. Ça nous a fait du bien. Donc les mauvaises expériences nous blessent. Et nous ferment. Les Thessaloniciens étaient fermés. Les Corinthiens étaient trop ouverts. Donc Paul doit corriger. Et leur dire non, attention. Ouvrez-vous à l'esprit. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Ça c'est indispensable. Par contre, examiner. Le verbe examiner, c'est vraiment prendre une chose, lui faire passer vraiment l'examen. C'est
clair.
Tu fais passer un certain nombre d'examens à cette chose. Et tu prends ce qui vaut le coup d'être retenu, ce qui est vrai. Le reste, tu jettes. C'est comme si tu trouves des pépites d'or. Et bien, dans une pépite d'or, il y a le précieux métal, mais il est mélangé avec un certain nombre de pierres, un certain nombre de trucs qui ne t'intéressent pas du tout. Donc, que font les creuseurs d'or? Ils vont chauffer toute la pépite. Ça, c'est l'épreuve. Et au bout d'un moment, le métal précieux va fondre. Et se séparer d'avec les impuretés. Ils font passer ce qu'on appelle au creuset. Et en fait, on fait ça avec certains métaux. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, mon grand-père, il avait plein de trucs, là, il avait une espèce de ferme. Et à l'époque, les tuyaux étaient en plomb. Et c'était ma passion de récupérer les tuyaux en plomb. Et alors, avec mon frère, on faisait du feu. Et on s'amusait à faire fondre ces tuyaux. Et avec la chaleur, tout de suite, on voyait le plomb qui se séparait d'avec les impuretés. Et c'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse avec la prophétie. On reçoit une parole, on doit la faire passer au creuset de la véracité de la parole écrite de Dieu. Donc, vous savez, il y a une chose dont il faut que vous n'ayez jamais crainte. C'est la contrefaçon. Est-ce que quelqu'un ici s'est un jour présenté à la banque et on a regardé votre billet et on t'a dit, ah non, celui-ci c'est un faux billet de 5000 francs par exemple. Ça vous est déjà arrivé? Et on te dit, non, bien celui-ci vraiment on peut pas le prendre.
Alors
vous êtes là, vous dites, ah, je me suis fait rouler là. Quelqu'un vous a gentiment glissé un faux billet. Puis les banquiers sont très forts dans ce domaine-là.
Vous
savez, un banquier n'acceptera pas de faux billets. Il a été formé pour détecter les faux billets. Allez, à qui c'est déjà arrivé ça, d'avoir un faux billet dans sa main? Alors, est-ce que depuis, vous n'utilisez plus l'argent? Non, vous utilisez plus d'argent. Depuis que c'est passé entre vos mains, vous utilisez plus l'argent. Bien sûr qu'on continue à utiliser de l'argent. C'est pas parce qu'un jour on est passé et on s'est fait avoir parce qu'on nous a refiné un faux billet que finalement on dit, ah bah non, l'argent, je ne veux plus y toucher. On sait jamais, peut-être que tous mes billets sont faux. Franchement, réagir comme ça, ça serait pas être intelligent.
Eh
ben, si vous êtes tombé sur une contrefaçon au niveau de la prophétie, ça ne veut pas dire que toutes les prophéties sont fausses. Mais aussi, si vous avez été béni par un certain nombre de prophéties, ça
ne
veut pas dire qu'un jour, il y en a une comme un faux billet de banque qui ne va pas se glisser dans votre
vie.
Maintenant, il va falloir que vous jouiez les banquiers et bien savoir si c'est une vraie ou une fausse. Vous savez, le Seigneur ne vous dira pas, c'est une fausse prophétie. Il ne vous dira jamais ça. Par contre, il va falloir que vous appreniez selon certains critères à discerner la prophétie, à examiner la prophétie, à retenir ce qui est bon. Si vous étudiez tous les dons spirituels, vous verrez que dans les milieux diaboliques de la sorcellerie, vous avez de l'imitation. Dans les cercles diaboliques, ils parlent en langue. Ils parlent de la part de Dieu aussi. Vous voulez une preuve? Acte 16. Regardez Acte 16. On reverra ce texte plusieurs fois. Mais typique. Typique, des gens qui parlent soi-disant de la part de Dieu. Acte 16 verset 16. Comme nous allions dans un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, c'est-à-dire de divination, et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut.
Baravuga ngo ku murongo wa 16 ngo buke tugiye aho basengera duhura n'umwigeme arimo daimoni aragura yaratungishije bashebuja cyane kubwiyo ndagu uyo aradukurikira twebwe na Paul asemerera ataba abantu n'abasavye b'Imana isumba byose kandi bababarira inzira y'agakiza.
Cette femme, entre guillemets, prophétisait.
Et
pendant plusieurs jours, elle a fait ça. Mais Paul a discerné que c'était un mauvais esprit derrière. On en reparlera. Mais dans les cercles diaboliques, tous les dons spirituels ont été imités. Pourquoi des gens vont voir le sorcier? Souvent, c'est parce qu'ils sont malades et qu'ils veulent guérir. Ou parce qu'ils veulent voir certaines choses s'accomplir dans leur vie. Ça doit être miraculeux. Mais dans les cercles de sorcellerie, il y a des apparitions, des visions. On entend des voix, etc., etc. Strictement identiquement. Mais la source est satanique. La source est trompeuse. Donc c'est clair que le diable a essayé d'imiter et essaye encore d'imiter les choses de Dieu. Et nous, nous sommes des enfants de Dieu et nous devons être capables de discerner. Une parole prophétique peut venir de trois sources: du Saint-Esprit, de la chair ou du diable. Donc il va falloir savoir discerner, examiner, Et il va y avoir des critères sur lesquels on peut s'appuyer pour dire ça, ça vient du Seigneur, ça vient de la chair, ça vient du diable. La première chose, bien sûr, qu'on peut voir dans une prophétie, c'est si elle glorifie le nom du Seigneur Jésus. Revenons dans 1 Corinthiens 12, au verset 3, Paul va nous parler de cela. Ce verset tellement évident, cette vérité tellement évidente, dirions-nous, qui a été donnée dans ce verset. 1 Corinthiens 12, 3, c'est pourquoi je vous déclare nul s'il ne parle par l'Esprit de Dieu. Parler par l'Esprit, c'est entre autres prophétiser, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, son rôle majeur, c'est ce que Jésus décrit dans Jean 16, verset 14. Dans Jean 16, 14, Jésus nous parle du Saint-Esprit. Et il dit, lui, donc le Saint-Esprit, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc la plupart du temps, le Saint-Esprit va nous rappeler une parole. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus est la parole. Donc il prend une partie de la parole et nous l'annonce. Et il prend de ce que Jésus veut nous transmettre et il nous le révèle. Mais tout le temps, il va glorifier Christ. Un jour, j'ai reçu un courrier électronique et d'un frère qui était très troublé. Il m'écrit et me dit, pasteur, je voudrais savoir, quelqu'un m'a donné une parole, mais je voudrais votre appui pour que cette parole, ce soit sûr que ce soit vraiment une parole du Seigneur. Un prophète m'a dit la chose suivante, que je serais aussi célèbre que Bob Marley. Je vous assure, j'ai le mail. Il y a vraiment des gens, ils migobent n'importe quoi. Moi j'aurais pris un bâton et j'aurais dit à ce prophète, je vais te frapper comme j'aurais frappé Bob Marley. Comme il aurait mérité. Alors qu'il a trompé des gens et amené des milliers de gens dans la drogue, ce type-là. Mais c'est grave. Des gens qui gobent n'importe quoi.
Vous
voyez, quand ça commence à flatter votre moi, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit une parole et que ça vous flatte quelque part, attention. Faites très attention. Surtout parmi ces gens qui se baladent d'endroit en endroit. Vous savez, Paul, dans Corinthiens, nous parle de faux serviteurs. Je dois le dire, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui vont d'endroit en endroit. Et quand vous leur dites, vous êtes de quelle église? Ah, ils vous nomment tous les grands noms du coin. Toutes les personnes ultra recommandables, ils se cachent derrière eux. Attention, frères et sœurs. Attention. Et il y a des groupes de gens, je ne les nommerai pas, mais qui sont très spécialistes dans les fausses révélations. Je les nommerai pas. Mais je peux vous dire, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Des professionnels de la contrefaçon. Donc faites attention. Quand quelqu'un vous donne une parole du Seigneur, et que vous sentez que ça élève qui finalement? Qui est-ce que ça glorifie? Jésus ou un homme? Ou vous?
Mais combien de fois on a vu des gens riches se faire rouler comme ça? Ou des gens qui avaient de l'influence. La personne qui donne une parole et qui s'installe à la maison. Et deux mois plus tard, elle se fait chasser à coups de bâton parce qu'il y a eu un scandale. Mais vous
ne
laissez pas rouler comme des bébés, des enfants.
Ayons
du discernement, frères et sœurs. Il
ne
faut pas laisser au diable ou à la chair d'avoir des opportunités d'entrer dans la vie de personnes qui peuvent être fragiles.
Il
faut être très strict avec ces gens-là qui sont dans la contrefaçon. Les faussaires sont toujours punis. Et il faut les écarter de l'église. Une prophétie, une parole doit toujours exalter le Seigneur Jésus. Si elle met l'accent sur l'homme, il y a un problème quelque part. Tu vas être le plus grand prophète qui n'a jamais existé sur cette terre.
Oui.
Ah, il m'a dit ça. Alors les yeux, ils commencent à faire comme si vous étiez, vous avez sous l'influence, je dirais pas de quoi. Frères et sœurs, soyons mûrs dans le Seigneur. Alors, deuxième critère. Est-ce que cette prophétie est scripturaire? Alors là, il faut vraiment faire attention. Rappelez-vous d'une chose. Le Saint-Esprit et la parole sont un. Ils sont un. Il n'y a pas deux pensées différentes. Il
n'y
a pas la parole de Dieu qui est écrite. Et puis le Saint-Esprit qui fait des exceptions à la parole. Non. Le Saint-Esprit et la parole sont dans un accord parfait. Je dirais même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement d'accord. C'est pour ça que la Bible d'ailleurs nous rapporte la révélation de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Chacun ne va pas dans son sens, chacun ne va pas dans sa direction. Avec sa propre pensée sur telle chose. Mais ils marchent ensemble. C'est pour ça qu'il y a un seul Dieu révélé en trois personnes. Chaque personne a son rôle. Mais ils vont tous dans le même sens. Ils voient tous de la même façon. Donc, si le Saint-Esprit parle à quelqu'un, c'est obligatoirement conforme à ce que le Saint-Esprit a inspiré. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir inspiré un jour quelqu'un pour écrire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est l'autorité finale, c'est-à-dire c'est elle qui a raison. Qui détermine les vérités divines, qui donne des directions à l'homme. Et cette parole ne peut pas être contredite par une parole parlée.
Ce
n'est pas possible. C'est le même Saint-Esprit qui a inspiré cette parole, qui donne et qui parle aujourd'hui, qui donne des prophéties, qui donne des révélations. Et ça doit être conforme à la parole de Dieu. Donc à partir du moment où quelqu'un donne une parole en disant le Seigneur dit que, ça doit être conforme à la parole. Et c'est très facile de voir la contrefaçon ici. Un jour, j'étais en train de parler avec des chrétiens qui me racontaient ce qu'ils avaient vécu dans une réunion. Et il y avait quelqu'un qui s'était levé dans cette réunion et qui disait: je vois des anges. Bon, ça c'est biblique, on est est d'accord?
Et ils
ont des ailes et ils volent autour de nous avec leurs ailes.
Mais
quand on étudie la parole de Dieu, il n'y a que les séraphins et les chérubins qui sont autour du trône de Dieu, qui ont des ailes. Les autres anges, quand ils apparaissent, lisez Ézéchiel, lisez l'Apocalypse de Jean, là vous rentrez dans l'esprit, vous avez des révélations dans le monde spirituel. Ézéchiel dira, et j'ai vu un homme qui était vêtu de blanc, qui brillait, etc. Apocalypse, c'est la même chose. Et après il dit, l'ange me dit, etc. Donc tu ressembles aux anges et les anges nous ressemblent, sauf qu'ils n'ont pas de corps. Donc vous voyez, c'est très simple. Bon, combien de fois on a entendu des bêtises aussi comme ça, où des gens sont dans un endroit et puis on sent que l'atmosphère est lourde, les gens commencent à dire oui, il y a quelqu'un ici qui est dans le péché parmi nous. Donc Dieu ce soir ne pourra pas nous exaucer. Le ciel est fermé. Est complètement fermé. Nos prières ne passent pas. Que cette personne se repente et ouvre la bouche et demande pardon à Dieu. Désolé, c'est faux. C'est complètement faux. Pourquoi? Je suis né de nouveau. Et j'ai un accès auprès du Père. Mon alliance est individuelle. C'est clair. Ta relation avec Dieu et ta vie de prière, les réponses à tes prières ne dépendent pas dans le Nouveau Testament. Ou alors montre-moi où c'est écrit, je ne vois pas où c'est écrit. Ne dépendent pas des autres. Ça dépend uniquement de toi et entre autres de ta foi. Vous savez, il y a des gros manipulateurs. Et particulièrement dans les groupes de prière. C'est sûr, ils sont sous aucune autorité pastorale, alors on se laisse aller. Hein, on en profite. Et il y a toujours des gens très spirituels dans ces groupes-là. C'est pourquoi tout ce qui est groupe de prière, ça doit être fait sous l'autorité pastorale. Que quelqu'un dise « Amen, s'il vous plaît, pour soutenir votre pasteur ».
Amen.
Combien de fois on entend des gens aussi prophétiser des choses sur la nation? Faisons attention avec cela, frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de dérapages. Nous n'avons pas d'alliance nationale. Dieu parle à son église. S'il révèle quelque chose sur une nation, c'est pour que son église réagisse. Vous voulez une preuve? Regardons dans Actes 11. Ça, vraiment, j'aimerais que vous puissiez le saisir. Parce qu'on aura vraiment de très belles choses qui vont se produire. On a un homme qui va prophétiser sur les nations dans le Nouveau Testament. Et c'est Acte 11 à partir du verset 27. On retrouve Agabus. Rappelez-vous, Agabus, c'est vraiment le ministère prophétique en action qu'on a d'une façon pratique dans les Actes des Apôtres. Cet homme va donner une révélation. Et il va donner une révélation donc sur ce qui va se passer dans un événement particulier. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude, le cinquième empereur. Parce que l'église était dans le péché, c'est ça que vous avez dans vos Bibles? Parce qu'il y avait une malédiction sur l'église, et alors ça a amené la famine dans le pays? Non, ça c'est l'Ancien Testament, c'est Israël avec son alliance nationale. Vous savez, Agabus, il y a deux ministères que j'aime bien étudier dans les Actes. C'est Philippe et Agabus. Philippe, il démarre, il sert aux tables dans Acte 6.
Il fait
vraiment des choses toutes simples, mais il y a un appel de Dieu dans sa vie. Et cet homme, dans Acte 8, vous le trouvez en train de faire de l'évangélisation dans Samarie. Avec signe, prodige et miracle, il remue toute la ville de Samarie. Mais dans Acte 21, on le retrouve des années plus tard. Plus de 20 ans plus tard. Et il est encore dans le ministère. Il a quatre filles qui manifestent le don de prophétie, donc qui marchent avec le Seigneur. Et on voit vraiment un excellent exemple d'un ministère qui dure longtemps. Agabus, c'est la même chose. Vous le trouvez dans Acte 11. Il prophétise quelque chose. Il reçoit du Seigneur une révélation qu'il va y avoir un événement tragique, une famine. Et moi je trouve ça super. Vraiment, je voudrais bien qu'il y ait des prophètes comme ça aujourd'hui. Plutôt que des prophètes pili-pili qui nous racontent que Dieu envoie la guerre ici, que Dieu châtie son église, que Dieu ceci, que Dieu cela. Moi j'aimerais bien trouver des prophètes qui prédisent un certain nombre d'événements et l'église dise waouh. Voilà ce que le Seigneur a dit. Nous, on va réagir. C'est exactement ce qu'ils ont fait là. Ça, je trouve ça trop bien, trop puissant. Les disciples, verset 29, décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Ça c'est super et c'est tout à fait typique d'un prophète du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il donnait certaines révélations parce que le peuple n'était pas né de nouveau. Toujours conforme à la parole de Dieu, Dieu envoie Élie et à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que le roi Akab et la reine Jézabel avaient mis tout le pays dans l'idolâtrie et c'était la malédiction de la loi qui s'appliquait à eux selon Deutéronome
28.
Et c'est exactement, on voit vraiment l'application de la parole de Dieu, alliance de l'Ancien Testament. Mais nous, nous avons une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Et Dieu s'adresse à son église prophétiquement. Je vous dirai une chose. Combien de présidents, et le nôtre aussi en a reçu, de fausses paroles de gens qui sont venus aller raconter tout et n'importe quoi, soi-disant que le Seigneur leur avait dit que. Il y a des gens qui vont voir des présidents dans le monde entier.
Tu
as plutôt intérêt à recevoir la vraie parole du Seigneur. Parce que ce que tu dis, ça doit s'accomplir. Sinon, fais attention. Fais attention. Parce que si ça se sait, ou si tu as amené quelqu'un à prendre une mauvaise décision parce que tu lui as parlé, soi-disant, de la part du Seigneur, t'as une responsabilité sérieuse. Moi j'aimerais vraiment avoir des prophètes dans l'église de Dieu.
Et
voilà, dans tel temps il va se passer ça, tel événement dans ce pays. Et que l'église se lève et dire voilà, nous avons des révélations du Seigneur, il va se passer telle et telle chose et nous on va se préparer pour cet événement pour aider ces gens là je vous garantis, le monde serait là en train de dire waouh.
Wow.
Si ça se passait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 50 fois,
il
commencera à dire mais c'est chrétien, waouh, c'est étonnant. Ils ont dit ces choses-là et elles se sont passées exactement comme ils l'ont dit. Et ils ont réagi parce qu'ils se sont préparés, parce qu'ils le savaient. Ça serait quand même intéressant, n'est-ce pas? Mais apparemment, Dieu a du mal à trouver ce type de personne. Agabus était ce calibre de prophète. Il n'a jamais rien raconté de bizarre. En tout cas, dans la Bible, c'est très clair ici. Les deux fois où il intervient, C'est très clair. La première fois, il prophétise une famine,
donc
un événement malheureux, et l'église va aider l'église parce qu'ils savent quoi faire, parce qu'ils ont reçu les révélations, ils y ont cru et ils ont agi selon ces révélations. Et Dieu a béni son peuple au travers d'une autre partie de son peuple, et ça c'est super, et gloire à Dieu pour cela. Agabus se présente devant Paul, nous l'avons lu tout à l'heure dans Acte 21, et il lui prophétise un certain nombre de choses. S'il va à Jérusalem, voilà ce qui va se passer pour lui. Paul ira à Jérusalem et ça se passera comme Agabus l'avait prédit. Je pense que Paul a fait une erreur, c'est un autre problème. Donc la prophétie, il faut faire attention. La prophétie va s'examiner. Il y a des critères d'examen de la prophétie. La prochaine fois, on va continuer sur cet aspect, la conformité à la parole de Dieu. Selon notre alliance. On va insister là-dessus, parce que c'est tellement ancré parmi les chrétiens. Il faut vraiment déterrer ces choses. Jusqu'à temps qu'on puisse croire ce qui est scripturaire. Recevoir ce qui vient vraiment de l'Esprit. Et après, je vous donnerai d'autres critères qui vont vous fonder pour que vous puissiez reconnaître si une prophétie est scripturaire ou non. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves.
Enseignement.com
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com,
parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.